il est 20h, Sofres au RTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. Je répète, Giscard 50,9.
François Mitterrand est élu président de la République.
Cinquième président de la Ve République, Jacques Chirac, 50%.
Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix.
Moi, président de la République, 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 moi, président de la République.
Bonsoir à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans Tous Politiques, l'émission politique de Transistor. Ça y est, les résultats sont tombés. Exit Fillon, exit Mélenchon, exit Hamon, exit Dupont-Aignan. Il n'en reste que deux, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Youhou !
Oui, on croirait que tu parles de Koh-Lanta, là, tout d'un coup.
Et oui, résultat des Jeux, dimanche 7 mai à 20h, puisqu'à la fin, il n'en restera qu'un. Et ce soir, nous sommes encore réunis pour parler politique dans toutes ses formes, sociologie, humeur, débat, opinion, etc. Oui, je vois Rémi qui me dit la politique dans toutes ses formes et cela lui donne des idées, et des idées, nous en avons. Ce soir, je suis avec Marie, Rémi, Pierre et Maëlys. Je vous dis bonsoir à tous et on commence tout de suite avec Marie. Bonsoir Marie.
Bonsoir Mathias.
Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Alors bonsoir à toi Mathias et bonsoir à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice de politique fiction pour ouvrir ce numéro de Tous Politiques. Alors fermez les yeux et inspirez bien fort parce que ça commence très 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 mal. Il est 20h, Sofres au RTF parce qu'on est vintage, Marine Le Pen 50,5%, Emmanuel Macron 49,5%. Alors là, vous ne le voyez pas parce qu'on est à la radio, mais je suis en train de multiplier les signes de croix pour que ceci n'arrive pas, surtout pas dimanche prochain. Bon, mais poursuivons notre petite expérience de pensée. Le Pen, donc, devient la première présidente de la République française, et ce n'est pas une victoire pour le féminisme.
Et Simone de Beauvoir se retourne dans sa tombe.
Au moins trois fois. Alors, perron de l'Élysée le 14 mai, visage fermé de François Hollande, qui s'est résolu à aller investir la connasse malgré tout. Ça y est, la voilà qui sourit de toutes ses dents, elle exulte, elle est ravie. Bon, et maintenant, on fait quoi ? À nous le traité de sortie de l'Union Européenne, le réarmement massif de la police et de la gendarmerie, l'abrogation de la loi Taubira, la suppression du mariage homosexuel, la promotion du roman national. On a hâte d'y être. Sauf si on arrivait à bloquer Marine Le Pen. Je vous présente donc ce soir le petit guide institutionnel pour réduire Le Pen à inaugurer les chrysanthèmes, ou à peu près, avec ses avantages et ses inconvénients. Alors premièrement, histoire de troller un petit peu, Cazeneuve pourrait rester scotché à Matignon comme une moule à son bouchot, et ce jusqu'aux législatives. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de la Ve République, mais légalement, rien ne l'interdit. Ensuite, on passerait aux choses sérieuses, restez bien concentrés, essayez de visualiser. Les partis de gauche, pleins de remords après le 23 avril, arriveraient à faire une grande coalition. Le 11 juin, puis le 18, nous sortirions des urnes une majorité de gauche. Oui, oui, ça vous embouche un coin. Bon, ceci étant fait, que se passe-t-il ? Eh bien, la petite Le Pen, la blondasse, là, elle se retrouverait à faire ce que la constitution de la Ve République prévoit pour les présidents et présidentes, arbitrer, assurer le fonctionnement des institutions et pouvoirs publics, garantir l'indépendance nationale. Ah, l'image de la blondeur froide et sévère, la blondeur dure, très très dure, qui vient fesser les électeurs de droite parce qu'ils aiment ça, elle en prend un petit coup. Le Pen aurait toujours le bouton de la bombe atomique, et ce serait toujours à elle de négocier nos traités internationaux, et ça, ça reste quand même très grave. Elle pourrait quand même nommer plein de profs d'extrême droite dans l'enseignement supérieur et dans les rectorats. Il faut s'attendre à tout de la part d'un parti qui salue en forisson un, je cite, « négationniste sérieux ». Pire encore, l'article 11 de la Constitution lui permettrait de faire passer certaines lois par référendum en court-circuitant l'Assemblée nationale. Une réforme constitutionnelle comme celle que veut Le Pen, par exemple, avec tout le délire sur la priorité nationale. Ou encore une sortie de l'Union européenne par simple référendum. Ça, c'est pour les défauts du plan. Après, il y a aussi quelques raisons d'espérer. Soit Le Pen est une femme de parole... Je meurs. Une femme de parole qui nomme Dupont-Aignan Premier ministre. Bim ! Grosse négation de la majorité parlementaire de gauche. La majorité contre-attaque avec une motion de censure et fait démissionner le gouvernement Dupont-Aignan. Le Pen contre-attaque en faisant dissoudre l'Assemblée, nouvelles élections et rebelote. Bon, c'est sûr, ça donne un système très lourd, très paralysant et ça ne fait pas beaucoup avancer notre vie politique pendant 5 ans. Et si cela arrive, cela nécessite une endurance sans faille de la part de nos députés qui ne devront pas se faire avoir à l'usure. Soit, second cas de figure, Le Pen est belle joueuse, je m'étouffe à nouveau, et accepte un gouvernement de cohabitation. Puisqu'on est dans une rubrique de politique fiction, on pourrait carrément pousser le vice et imaginer un tandem complètement baroque, Le Pen présidente, Mélenchon Premier ministre. Est-ce que vous visualisez un peu le scénario ? Je te vois rigoler, Mathias. Ça donne le vertige, mais même sans exagérer jusque-là, on pourrait imaginer un petit gouvernement de gauche avec sa petite majorité de gauche à l'Assemblée qui ferait tranquillement passer quelques petites mesures de gauche. Et ouais. Le Pen présidente, elle pourrait toujours bloquer des lois en refusant de les signer, mais elle n'aurait pas, pourrait sans doute pas tout bloquer non plus. Et nous ferions donc, bon an, mal an, un quinquennat de cohabitation un peu bizarre. Pour ça, il nous faudrait des ministres et des députés pugnaces, des mecs sans concession qui ont la ferme intention de faire chier des petits Rémi Cerda en quelque sorte. Alors attention, merci. Je ne suis pas en train de faire l'éloge sans condition.
De Rémi Cerda
d'abord, de ce schéma ensuite, et croyez bien que j'aurais préféré ne pas avoir à imaginer ce genre de scénario, parce que vraiment, j'aurais donné n'importe quoi pour voir autre chose que ces deux têtes d'affiche le 23 avril dernier à 20h. Alors bien sûr, ce ne seront pas des conditions idéales pour faire des choses qui me paraissent très importantes, comme par exemple engager la sortie du nucléaire, réformer notre droit du travail ou améliorer notre politique d'éducation, entre autres choses. Mais compte tenu des circonstances, et elles sont graves, quel que soit ce que vous avez décidé de faire dimanche prochain autour de cette table et vous qui nous écoutez, quel que soit le nom qui sortira des urnes, et personnellement je voterai de manière à ce que ce ne soit pas Le Pen, compte tenu de tout cela, j'espère fort en une coalition de gauche efficace, après tout pourquoi pas, on a le droit de rêver, et j'appelle tout le monde à voter pour une majorité de gauche en juin prochain, s'il vous plaît. Parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que ce que je viens de vous exposer pour contrecarrer Le Pen autant que possible, eh ben ça marche aussi pour le scénario d'une présidence Macron. Allez, encore un petit effort pour se rendre l'existence moins pire pendant 5 ans.
Merci Marie, et pour plomber l'ambiance, je rappelle que dans notre constitution, nous avons un article 16 qui permet d'avoir les pleins pouvoirs pour une durée limitée certes, mais dont les conditions d'application sont assez larges pour que Marine Le Pen puisse en jouir comme elle le semble, par exemple s'il y avait des émeutes à son élection. Voilà.
Voilà. Bon, après, voilà, tout est une question de réflexion et d'imagination, de savoir est-ce que Marine Le Pen est capable d'aller...
Car parfois, c'est ceux qui tiennent les matraques qui jouissent, sachez-le.
Peut-être, et oui, il faut être imaginatif en ces temps un peu troublés. Et je me tourne tout de suite vers Pierre. Pierre, de quoi vas-tu nous parler ?
Eh bien, écoute, aujourd'hui, je m'adresse à tous les Rambos de la politique, à tous ceux qui disent « c'est pas ma démocratie ».
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris !
Bonjour à tous, mes chers petits agneaux démocrates électeurs et éligibles, enfin, je l'espère. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous à ce qu'est la démocratie. Vous savez, ce beau système politique que Churchill décrivait comme le pire de tous les gouvernements, à l'exception de tous les autres. Ce système qui, comme tout le monde, s'amuse à le clamer signifie pouvoir du peuple parce que c'est composé de démos et de kratein, soit peuple d'un côté et pouvoir de l'autre. Alors, c'est bien joli de faire les hellénistes, mais j'ai envie de quand même croire que je suis plus intelligent que vous, pour la simple et unique raison que j'ai ouvert un bailli. Alors, on y trouve bel et bien le mot démos sous la lettre delta, et on a plusieurs définitions bien sûr, sinon ce serait trop simple. Et bien la première définition qu'on trouve, c'est ce qu'on a traduit en français comme des ports, avec les pieds quoi, avec le mot dem. Vous savez, ces districts qui forgent le système politique athénien. Il y a donc en premier lieu la notion de territoire, de peuple rattaché à un territoire. Puis on tourne la page, on regarde le verso de la page 457, si vous voulez jouer les malins avec moi, et on voit que la deuxième définition est bel et bien celle de peuple, mais pas dans son sens ethnique ou nationaliste, au sens de groupe de gens par opposition au roi ou au chef. Si on continue de lire la définition décidément longue, on tombe aussi sur l'ensemble des citoyens libres, le peuple, mais seulement dans les démocraties. Et en continuant, on tombe sur justement cette idée de peuple au sens ethnique, nationaliste. Le bailli vous dira gentiment « race ». Et enfin, on a « citoyen » quand utilisé seul. On pourrait faire la même chose avec le terme « kratos » qui signifie d'abord « force du corps », puis « puissance », »,« domination », d'abord dans un contexte divin, puis royal, et enfin au sens de domination de pouvoir ou autorité souveraine. Enfin bref, si vous voulez savoir le grec, ouvrez donc un bailli. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que pour comprendre un mot, ça sert à rien de dire « ouais, mais démocratie, dans son sens originel, ça veut dire le pouvoir du peuple ». Parce qu'à la limite, ça peut vouloir dire ça en français, avec notre version figée de son étymologie, mais je peux tout autant vous dire que démocratie, en tant que mot composé de démos et kratos, signifie « la victoire du gras ». Ceci est véridique, selon les définitions que j'ai trouvées, kratos signifie aussi « victoire », et démos, la graisse animale. Et bim, les politistes, les idéalistes, on n'a rien compris, il n'y a que Lassalle qui prenait une vraie démocratie, une vraie victoire du gras. Mais l'enjeu majeur de notre belle émission politique en ces temps troubles pour notre belle patrie, pour notre vieille démocratie, n'est pas de glisser des languettes de couenne dans des enveloppes, mais de nous poser les vraies questions qui fâchent. Les questions qui font qu'on hausse le ton, qu'on sort les insultes, qu'on brandisse le crayon qui traîne ou le couteau de cuisine pour parler de la seule chose qui compte, la politique. Après tout, ne sommes-nous pas des animaux politiques ? Eh ouais, il y en a de la culture. Mais voilà encore un terme qui porte à confusion et qui a beaucoup changé de définition. J'imagine que si vous êtes allé vous connecter sur transistor.fr pour écouter Tous Politiques, ce n'était pas pour tomber sur une émission d'étymologie et d'histoire du sens des mots. On vaut mieux que ça. Alors, posons les questions qui fâchent. Mathias, Rémi, Maëlys, Marie, c'est quoi pour vous la démocratie ?
Le pouvoir du peuple.
Merci Maëlys. Tu nous sauves.
Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple.
Et au nom du peuple.
Ce qui suit la dictature du prolétariat.
Voilà, donc ce qui est rigolo avec la démocratie justement, c'est qu'on y trouve autant de définitions qu'il y a de personnes dans le monde. Donc penchons-nous deux secondes pour se marrer sur les définitions qu'on peut trouver dans divers dictionnaires. Après, promis, j'arrête de faire mon intellectuel de gauche fraîchement sorti de prépa avec son bail sous le bras, son écharpe soyeuse flottant un peu au vent dans un élan de débridage anti-système, et j'enfile ma casquette de connard centriste qui veut pas prendre de bord comme une goutte d'huile d'olive qui se balade sur le fond de votre poil en téfale. On va bien sûr éviter ici de prendre toutes les définitions classiques qui disent souveraineté ou pouvoir du peuple. Alors on commence avec le Larousse. Selon le Larousse, la démocratie, c'est aussi un système de rapports établi à l'intérieur d'une institution, d'un groupe, etc., où il est tenu compte, aux divers niveaux hiérarchiques, des avis de ceux qui ont à exécuter les tâches commandées.
C'est un peu comme Transistor, quoi.
Exactement. C'est donc une première définition assez intéressante qui change de celle d'habituelle où c'est juste pouvoir du peuple. Maintenant, on passe à Reverso, et selon Reverso, la démocratie, c'est un régime politique dans lequel le peuple élit ses représentants. Du coup, là, fuck le pouvoir du peuple, hein, il le délègue forcément, sinon, c'est pas une démocratie. Et ce qui est amusant, c'est que ça, c'est la définition de base, le degré zéro de la démocratie selon Reverso. Mais dans les subdivisions, Reverso inclut quand même à la fois la démocratie directe, la démocratie pluraliste, et bah, la démocratie représentative, dont on a normalement déjà la définition sous démocratie selon Reverso. Maintenant, on passe quand même le meilleur pour la fin, le littré. Et selon le littré, c'est magique. On croirait entendre parler le FN ou les Républicains ou tout simplement en fait le 19e siècle. Société libre et surtout égalitaire où l'élément populaire a l'influence prépondérante. C'est d'abord et avant tout donc une société égalitaire. Mais ça, c'est seulement parce qu'il y a l'élément populaire, hein, faut pas déconner. Il faut entendre ici les pauvres qui a l'influence prépondérante. Sous-entendu, il y a d'autres influences, pas forcément en faveur de l'égalité ou des pauvres. Mais ce n'est pas tout. La démocratie, c'est aussi un régime politique dans lequel on favorise ou prétend favoriser les intérêts des masses. Le coup du verbe prétendre est assez magique, je trouve, je ne sais pas vous. Vous sentez pas à plein nez l'influence bien réac de cette définition ? Mais attention, hein, ici, l'exemple donné est seulement la démocratie impériale à Rome. Pas du tout notre système actuel. C'est bon, vous êtes tous au clair avec ce que c'est une démocratie? Parce que là, je vous avoue que, bah, moi, plus du tout, en fait. Avec tout ça, je comprends plus rien, donc ça peut vouloir dire tellement de choses. Mais c'est vrai que, communément, on se dit que tout pays est démocratique quand Duchenok du 3e peut autant donner son opinion que Monsieur le Président de la République. En soi, c'est vrai, leur vote compte autant, et c'est ça qui fait la démocratie. On a beau prendre en photo les personnalités qui votent parce que c'est du showbiz, mais ils ont autant de voix que Madame Michu avec le caniche au marché du vendredi. Les gens autour de cette élection ne se sont pas plaints du fait de glisser un bulletin dans une urne. Quoiqu'on m'a quand même balancé que c'était ridicule, voire archaïque, d'avoir plein de petits morceaux de papier qu'on doit choisir avant de les glisser dans une enveloppe, puis dans une urne, et de jeter les milliards d'autres papiers qu'on n'a pas utilisés. Nos voisins allemands, par exemple, utilisent juste une feuille, où il suffit de cocher des cases. Pareil aux USA, mais ce ne sont plus des morceaux de papier, carrément des ordinateurs. Enfin bref, voilà, je m'égare. Les gens ne se sont donc pas plaints du fait même de voter, mais du système de vote. Une critique que j'ai beaucoup entendue contre le vote utile, contre le principe même du second tour, c'est qu'on devrait voter pour son opinion et rien d'autre. C'est une idée qui se tient, bien sûr. On pourrait avoir une vraie démocratie directe dans laquelle chacun donnerait son opinion sur tous les sujets importants. On pourrait avoir des votations régulières, comme en Suisse. Alors d'un côté, oui, ce serait cool, on aurait vraiment une participation de tous les citoyens à la politique, et donc au choix majeur de l'État. Mais rien ne garantirait que tout le monde irait voter tout le temps. Et surtout, je suis désolé de le dire, mais le concept de référendum, de démocratie directe, est quand même extrêmement flippant quand on y pense. C'est mon avis personnel, bien sûr, mais j'ai grandi en pensant que le but de la politique, c'était d'être au-dessus de la mêlée. C'est d'être un spécialiste, un peu, d'un sujet pour pouvoir en connaître toutes les ramifications. Bien sûr, c'est une des critiques les plus violentes envers l'Union européenne, sa technocratie. Pourtant, il est de l'avis de tout le monde que, quand on ne sait pas, on se tait. Que quand on doit prendre une décision de très grande envergure, on ne le fait pas sans en peser les conséquences. Vous me répondrez sûrement qu'il faut laisser faire les conneries pour apprendre, mais certaines conneries sont irrécupérables, Marine Le Pen, dimanche prochain, ou juste à l'encontre de ce que devrait être une société, à mon avis, par exemple le rétablissement de la peine de mort par référendum. La démocratie représentative permet, elle, à tout le monde de s'exprimer tout en maintenant ce concept des élus au-dessus de la mêlée. Mais comme nous l'a montré l'évolution de la politique en France depuis des décennies, comme le Brexit, Trump et Le Pen au deuxième tour, ce style de démocratie a des conséquences dangereuses. On peut récupérer un mandat par une tricherie sur la marchandise, parce qu'une fois élu, on est tranquille jusqu'aux prochaines élections. Alors mettons en place la possibilité de virer un élu n'importe quand pendant son mandat, comme le proposait un candidat à la présidentielle. Mais dans ce cas, bonjour le populisme. C'est un des problèmes majeurs de la démocratie représentative. Être prêt à tout dire, tout faire, pour rester élu. On peut trouver au populisme une qualité, en ce qu'il permet de respecter la volonté du peuple au plus près de ses envies. Mais ce n'est pas non plus un terme péjoratif pour rien. Le populisme mène souvent aux pires excès parce qu'on peut contrôler, diriger les envies des gens. Une masse de personnes se tourne rapidement vers la violence, exacerbe son agressivité. Il reste encore plein de types de démocratie, de scrutin. On peut avoir un système de délégation où la démocratie directe fonctionne, mais en fonction des sujets débattus, on va donner sa voix à une personne que l'on sait connaître le sujet, à petite échelle. Par exemple, mon pote Étienne me donnerait sa voix pour toutes les questions concernant l'Union européenne et l'international. Ça veut dire que quand j'irai voter, ma voix comptera double, et lui n'aura pas à voter. Et en ce qui concerne les questions économiques, ce serait l'inverse entre nous, et ainsi de suite. Ou bien on pourrait avoir un système où on a une moitié élue pour ses connaissances, ses qualités, et l'autre moitié tirée au sort pour garantir une partie suffisante d'avis frais, extérieurs et naïfs qui apportent souvent un éclairage nouveau, sans pour autant avoir à prendre la décision sans bien connaître l'envergure du sujet. Parce que oui, c'est toujours bon d'avoir un vote par idéal cumulé à un vote par connaissance. Comme tout sur Terre, il faut un peu de ci et un peu de ça pour qu'un système fonctionne. Si on laisse juste ceux qui s'y connaissent traiter de questions importantes, on est une technocratie qui prend seulement la direction de l'efficacité, bien souvent sans considérer le facteur humain. Si on laisse juste ceux qui ont des idéaux traiter des questions importantes, on se retrouve très vite avec des omissions, des marges d'interprétation qui mènent aux abus, ou une simple course au totalitarisme idéologique ou un blocage total. Quoi qu'il en soit, il n'existe pas de système idéal, et en tant que bon centriste, j'espère juste que vous avez eu un petit aperçu de toutes les possibilités qu'offre la démocratie. Mais quoi qu'il en soit, il y a bien une seule valeur hyper importante qu'il faut que vous respectiez absolument tout le temps, et surtout parce que le deuxième tour approche. D'abord, notre système est comme il est, pour l'instant, hein, il peut toujours changer. Et le deuxième tour consiste non pas à voter par idéal, ça c'était le premier tour, il consiste à choisir le moins pire. C'est comme ça, c'est tout, mais si on s'arrêtait au premier tour, j'aurais certes été très content, hein, Macron est quand même passé avec 24%, mais ce serait horriblement flippant, vous trouvez pas? Alors voilà, je m'arrête là sur une dernière phrase, la vraie démocratie, c'est foutre la paix à ceux qui n'ont pas voté comme vous.
Donc c'était Père Castor sur Transistor. Père Castor, le centriste. Et tout de suite, je crois que Maëlys a quitté la sociologie pour un court instant dans sa vie.
Il y aura un petit peu de sociologie quand même. Hein.
C'est maintenant le moment du billet d'humeur de Maëlys.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris!
Bonjour tout le monde. Alors, foutre la paix à ceux qui n'ont pas voté comme vous. C'est un peu je vais un peu plaider un peu la même position que toi, Pierre, mais un peu plus à gauche aujourd'hui. Alors, un billet un peu atypique aujourd'hui, un billet d'humeur avec un petit peu de sociologie dedans quand même, parce que ça manque cruellement dans cette campagne où on a complètement squeezé cette dimension, emportée par l'indignation, la consternation, l'effarement, bref, emportée par les passions. Au lendemain du premier tour, on a vu quelques cartes, fort utiles et instructives, passer sur le Huffington Post notamment. Carte des professions et catégories socio-professionnelles, les PCS du démographe Hervé Lebras, comparées aux résultats du premier tour et qui ont été rassemblées en fait par les décodeurs du journal Le Monde. Donc je ne sais pas si vous les avez vues, ces cartes. Emmanuel Macron a réalisé les meilleurs scores dans les villes et dans les zones où les cadres et les PCS plus étaient surreprésentés. C'est vraiment flagrant, vous irez voir. À l'inverse, la comparaison montre que Marine Le Pen a obtenu un bon score là où les ouvriers étaient les plus présents, même si c'est moins notable que pour Macron, puisque les irréductibles ouvriers bretons semblent encore et toujours résister à l'envahisseur nationaliste. Et à l'inverse, dans le sud et la région PACA, où l'extrême droite est très bien implantée, les ouvriers sont très très peu nombreux. Donc les sondages préélectoraux ont aussi été une potentielle source de renseignements de la sociologie du vote, moyennant quelques biais, donc les biais habituels des sondages. Donc là, je cite un sondage Ipsos Storia réalisé juste avant le premier tour dimanche dernier, donc dimanche 8. Donc Emmanuel Macron a obtenu le plus grand nombre de suffrages chez les électeurs les plus aisés, 25% chez les électeurs dont le revenu mensuel du foyer est compris entre 2000 et 3000 euros, 32% chez ceux dont le revenu mensuel du foyer est supérieur à 3000 euros. Il a encore convaincu le tiers des électeurs qui déclarent, je cite, « s'en sortir facilement avec les revenus du ménage ». Par rapport au niveau de diplôme, il a été le plus souvent choisi par ceux qui ont arrêté les études au baccalauréat, 24%, par les diplômés du premier cycle, 26%, et par ceux du deuxième et du troisième cycle, 30%. Il a convaincu un cadre sur trois, le quart des professions intermédiaires et des retraités, un salarié sur quatre, du public comme du privé, le quart encore des électeurs à leur compte. Donc du coup, Emmanuel Macron a séduit la France optimiste, qui vit plutôt bien et qui pense que la jeune génération vivra mieux qu'elle, à 35%. Donc ça, c'était pour Emmanuel Macron. En termes de catégories socio-professionnelles, Marine Le Pen a obtenu 37% du vote ouvrier et a convaincu le tiers des employés, 32%, soit le meilleur score parmi CPCS, devant tous les autres candidats, juste devant Mélenchon qui était 10 points quand même en dessous d'elle. Donc malgré des scores sous les 20% dans toutes les autres catégories, elle est en tête sur l'ensemble des salariés, 26% du public. Les salariés du public, pardon, 26%, et 27% dans le privé. Donc la candidate du Front National a enregistré le meilleur score auprès de ceux qui ont l'impression d'exercer une profession en déclin, 30%, chez ceux qui ont un diplôme inférieur au bac, 30%, chez ceux qui s'en sortent très difficilement, je cite, avec des revenus du ménage à 43%. Je sais pas si je suis claire ou pas.
Oui, ça va.
Chez ceux qui pensent que la jeune génération vivra moins bien qu'eux à 25% et chez ceux qui disposent des plus faibles revenus, 32% au sein des foyers dont le revenu mensuel est inférieur à 1250 euros par mois et 29% dans la tranche 1250 euros de 1000 euros. Donc nota bene, concernant les 18-24 ans que nous sommes, c'est Mélenchon qui arrive en tête, 30% contre 21% pour Le Pen et 18% pour Macron. Visiblement, nous ne rêvions pas tous de devenir milliardaires et de nous payer un costard comme preuve ultime de notre dur labeur. Bref, quand on fait un peu de sociaux et qu'on sait qu'on a déjà entendu parler de Pierre Bourdieu et des mécanismes de violence symbolique imposés du haut vers le bas dans la hiérarchie sociale, ces résultats questionnent beaucoup. On peut se demander ce que ça veut dire, puisqu'on a une nette partition dominant-dominé, bourgeois-prolo, prolétaire, classe supérieure contre classe inférieure. Et la violence symbolique des dominants à l'égard... Quoi ?
Continue.
Voilà, bref. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que les dominés tentent de me dire ? Quel malaise social ce vote révèle-t-il en termes d'inégalité ? Et quels en sont les effets et quelles en sont les causes ? Donc, appartenant de par mon statut et mes origines familiales à un milieu plutôt aisé, provincial certes, mais plutôt bien doté en capital culturel, bref, étant symboliquement plus dominante que dominée, et étant consciente de cet état de fait parce que je fais un peu de sociologie, tout en ayant un rejet viscéral des opinions portées par Marine Le Pen et me situant aux antipodes de ses valeurs et de ses idées, et n'étant absolument pas responsable de ce ticket pour le deuxième tour, je suis extrêmement mal à l'aise et je revendique le droit de m'interroger, de me poser des questions. Mes choix politiques sont-ils des choix de classe ? Suis-je pour l'ouverture et contre le nationalisme parce que je ferai partie en fait des gagnants de la mondialisation, puisque je ne risque pas de perdre mon emploi, mais que je suis très contente d'acheter mon café bio et équitable à des producteurs péruviens, et que j'aurai intérêt à conserver certains de mes privilèges. Donc est-ce que je vais vous faire réagir ? Je ne sais pas si ce que vous pensez du vote de classe.
Je trouve ça intéressant dans le sens où, quand on regarde dans le détail le programme de Le Pen, les premiers touchés, ce seront les gens qui votent pour elle, en fait. Parce qu'elle a beau se dire anti-mondialisation, ça reste un programme capitaliste, teinté de paternalisme bienveillant, PME, petites entreprises, ruralité, mais ça reste un modèle capitaliste qui ne remet absolument pas en cause les systèmes de domination.
Sans nationalisme économique, de toute façon, personne n'y croit. Enfin, aujourd'hui...
Non, c'est sûr, personne
n'y croit. Non, personne n'y croit, mais c'est un discours...
Si, des gens y croient, mais je veux dire...
Je pense pas que les gens qui votent Marine Le Pen croient au nationalisme économique ou à la sortie de l'UE. Je pense que aussi il y a une différence entre ceux qui votent pour elle au nord et ceux qui votent pour elle au sud. Les gens du sud étant, enfin, l'électorat frontiste du sud étant des petits bourgeois propriétaires épargnants.
Alors que les gens du nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors.
Voilà.
Bref, je crois que ce sont des questions que l'on devrait quand même se poser dans notre petite auto-analyse du vote et se demander jusqu'où la politique que nous promouvons est une politique de classe, ou du moins je pense qu'on a le droit de se poser ces questions-là, sans être suspecté de trahir le Front Républicain parce qu'on n'a pas appelé à voter pour Macron mais appelé à voter contre le FN, sans donner de consigne de vote, dans les 5 premières minutes de la conversation, hashtag Mélenchon, qui même s'il m'énerve énormément, m'a moins énervé que ses détracteurs qui n'avaient que les mots déshonneur, faute, antidémocrate, antirépublicain, petitesse, à la bouche, à défaut d'avoir un discours intelligent et argumenté. Bref, l'indignation a très bon dos quand il faut éviter de débattre et de poser les questions qui fâchent. C'est un billet à charge aujourd'hui.
C'est ce qu'on voit. Donc si j'ai bien compris, Le Pen pose les bonnes questions mais pas les bonnes réponses.
Non, c'est pas ça. Je trouve que en sein d'un deuxième tour, j'ai un peu du mal avec toutes ces catégories morales qui sont mobilisées en fait pour juste clore le débat. Il y a une seule possibilité. Voilà. Donc si on veut vraiment endiguer la montée du Front National, encore faudrait-il en connaître les effets et les causes, visiblement sociales, parce qu'il y a une grande corrélation entre la situation socio-économique et le type de bulletin glissé dans l'urne. Et l'énorme problème, de mon point de vue, c'est qu'en ne recourant qu'à des catégories morales pour contester le vote FN, on se dispense de comprendre les raisons sociales du choix de 7,3 millions de personnes, et surtout d'agir. Pire, on n'utilise pas d'arguments de fond, alors que merde, on n'en manque pas, enfin le programme de Le Pen y est extrêmement contestable sur bien des points, et on se refuse à débattre, on laisse un boulevard au FN qui en vient à avoir une raison par défaut sur ces thématiques parce qu'il n'est pas contredit. Donc l'énorme problème de cette élection selon moi avec le vote FN, c'est que c'est vrai aussi un peu dans l'analyse du terrorisme, c'est que l'on ne tente pas de comprendre, d'avancer des explications sociologiques en se disant « oh là, un peu de recul », et de faire preuve d'un relativisme scientifique nécessaire pour décentrer notre regard d'individu socialement situé. On est accusé d'excuser, de cautionner et d'être d'accord. Aux quelques personnes qui osent publiquement prendre la parole ces derniers jours pour critiquer sévèrement l'ultralibéralisme de Macron, critiquer son programme sur le fond, sur le quinquennat désastreux qui a été le sien et qui s'achève sans montrer patte blanche en appelant à voter pour lui, ou pour simplement faire part de leur tentation pour l'abstention, on les renvoie au mal absolu et irréductible que représente le FN, la nécessité, je cite, d'une riposte républicaine, hashtag NKM et Christian Estrosi, oui, Christian Estrosi. On leur reproche de dédiaboliser le FN, voire de faire son jeu, je cite, de donner la moitié de leur vote à Marine Le Pen en cas d'abstention, a déclaré Cédric Villani aujourd'hui, à Libération, d'être coupable d'une faute morale en cas de nini, a déclaré Manuel Valls, bien passé pour donner des leçons concernant la montée du FN, et qui s'y connaît en faute morale, puisqu'il sait bien renier ses idées au moment opportun. Donc je m'interroge sur toutes ces lettres aussi, lettres aux insoumis, lettres d'un insoumis, lettres à la jeunesse insoumise, lettres ouvertes des marcheurs aux électeurs de la France insoumise, lettres aux insoumis tentés par l'abstention, lettres aux insoumis soumis, lettres à un ami écolo tenté par l'abstention, à tous ces billets « voter Macron, c'est empêcher le FN, Le Pen, etc. » de blablabla, à tous ces billets de bons samaritains qui se sont mis soudainement à fleurir sur les blogs, ils sont abondamment repris par les journaux. Donc on est indigné, consterné, on agite, et certainement à raison sur le fond, le chiffon rouge de 1933. Mais le problème, c'est que culpabiliser les abstentionnistes, et j'en suis pas pourtant. Notamment mélenchoniste au premier tour, on sait. Par contre, parler aux électeurs FN, on est beaucoup moins doué, bizarrement, ces derniers jours. Qui a pris la peine de leur parler et de les convaincre? Parce qu'en négatif de toutes ces déclarations, les électeurs FN sont le mal absolu, anti-républicain, raciste, veulent la mort de la France, ont l'âme corrompue et sont manipulés par les populistes. On n'est pas loin de la psychologie des foules de Le Bon fin 19e et de la caricature des classes populaires comme des classes dangereuses, des masses incultes à dresser, éduquer, réformer, mettre au travail. Les électeurs FN qui sont-ils? Demandent beaucoup de journaux ces dernières semaines. Les électeurs du Front National votent-ils par peur ou par haine? Demande très subtilement cette semaine le Huffington Post à une psychologue. On devine au passage qu'ils n'ont pas trop l'habitude d'en parler. Voilà, c'est binaire. Soit vous avez peur, soit vous êtes méchant, soit vous êtes con, soit vous êtes con. Et derrière, on ne parle pas du terreau social de la montée du FN. Encore une fois, je comprends et j'adhère en une immense partie à l'argument moral de tous ces discours, mais je trouve extrêmement dérangeant qu'ils servent d'anathème. Si vous avez un mais à dire, une nuance, c'est que vous êtes fasciste par défaut. Et pendant ce temps-là, on ne parle ni des programmes, ni du fond, ni des grosses variables sociologiques qui sautent aux yeux derrière ce vote du premier tour. On ne se demande pas pourquoi les plus pauvres sont désespérés, parce que oui, le jeu du marché et la nécessité de s'adapter à l'économie mondiale sont des arguments conservateurs pour justifier le fait que certains ont tout et que d'autres n'ont pas grand-chose, ni de la finance, ni de la mondialisation au concret, ni de la désindustrialisation qui a pourtant bien fait le terreau de la montée de l'extrême droite. Sauf Marine Le Pen qui se retrouve toute seule à frapper là où ça fait mal hier sans que personne n'ait prévenu le coup. Macron, candidat de la finance, parce que oui, toutes les bourses européennes et américaines ont bondi à l'annonce du résultat la semaine dernière, parce que Macron refuse de dévoiler ses donateurs financiers, parce que c'est pour ne pas se plier à cette exigence de transparence qu'il a créé à dessein un mouvement et non un parti. Et parce que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour favoritisme et complicité de recel concernant sa petite sauterie à Las Vegas. Voilà, ces derniers temps. Bref, on ne parle pas des causes. Cet amitié est bien utile au FN comme aux libéraux convaincus. Et on fait l'autruche sur le malaise social. Il ne faut surtout pas en parler. Le programme d'Emmanuel Macron est à prendre ou à laisser tel quel. Changer mon programme, ce serait trahir mes électeurs, a-t-il dit ce week-end. Alors que d'après les sondages, seul un peu plus de la moitié de ses électeurs adhèrent à son programme, le niveau le plus bas parmi tous les autres candidats. Plutôt que de faire des concessions sociales de gauche, visant à améliorer le sort des plus pauvres, qui rassembleraient véritablement autour de sa candidature, c'est lui qui a choisi la posture inverse, rester droit dans ses bottes en ce moment critique, posture sourde à la détresse sociale, tout aussi indigne et anti-républicaine selon moi. Voilà.
Merci Maëlys.
Merci Maëlys.
Et ça fait plaisir de t'entendre. Et tout de suite, sans transition, il se trouve que, comme toutes les semaines, j'ai quelque chose à vous dire.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Alors, hier, j'ai regardé un peu France 2. J'ai regardé la télévision. Oui, je sais, honte à moi, blablabla. Et je suis tombé à l'heure des clips de campagne officiels pour le second tour de l'élection présidentielle. Je ne vous apprends rien, vous avez tous été bassinés par l'actualité récente, Emmanuel Macron versus Marine Le Pen. Voilà, on a tout gagné, bravo. J'ai donc regardé le clip de campagne d'Emmanuel Macron, rassembler tous les Français, libérer les énergies, etc. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'est à la fin de son clip, c'était cette volonté de, je cite, « remettre la France en marche ». Oui, le nom du parti, enfin du mouvement qu'il a créé, bref. Mais après, j'ai vu le clip de Marine Le Pen et son slogan de campagne, « remettre la France en ordre ». Voilà, vous avez le choix, vous avez l'ordre ou la marche. L'ordre ou le mouvement.
On peut aussi marcher en ordre.
Le pas de loi, là, bim, bim, ouais. Bim.
Et c'est là que ça m'a frappé. J'ai été pris d'un éblouissement soudain devant la vacuité de notre monde politique ratatinée sur sa propre débâcle. En fait, nous ne sommes pas en 2017. L'élection présidentielle n'aura pas lieu. Non, non. On nous a menti, on nous a trompés. Toute notre vie n'a été qu'un tissu d'illusions. Accrochez-vous, nous sommes au 19e siècle. Il n'y a pas de parti socialiste, pas de France insoumise, pas de Les Républicains et encore moins de Front National. Il y a, à partir de 1830, deux principales forces d'opposition, le parti du mouvement et le parti de l'ordre. Eh oui. Le parti du mouvement arrive au pouvoir en 1831 et à sa tête le célèbre Adolphe Thiers.
Thiers.
Thiers, Thiers, on s'en fout.
Non, on s'en fout pas. Je suis la caution historique. Et
oui, bah, vu que c'est un sombre connard, on s'en fout. Et ce parti du mouvement tombera en désuétude dès 1840 quand Thiers est désavoué par le roi. Le parti de l'ordre, qui n'est pas vraiment un parti, mais un groupe de personnes, ne naît qu'en 1848 sous l'impulsion de Guizot, de Tocqueville et à Thiers aussi. Mélange hétéroclite d'orléanistes et d'admirateurs de la République américaine, qui avaient tous en commun un franc conservatisme social et le souci des bonnes mœurs. Voilà, vous savez tout, c'est fait. Bon, j'arrête avec l'Uchronie parce que ça va 5 minutes, mais bon. La question que je pose ce soir, et attention, roulement de tambour, Marine Le Pen est-elle une femme ?
Alors, a priori, oui. Vu le slut-shaming sur son genou apparent, oui.
Bref.
Mais tu vas me démontrer que non.
Bon, je ne ferai aucune révélation fracassante quant à l'anatomie de la candidate d'extrême droite, je vous rassure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il semble que Le Pen, fille, est une candidate hors genre. Une candidate qui essaie de faire oublier qu'elle est une femme, tout en le rappelant, ça et là, selon ce qu'elle a à dire. Marine Le Pen tient un discours viriliste, un discours régalien, qu'on considère toujours aujourd'hui en France comme étant l'apanage des hommes. Sécurité, justice, diplomatie, armée. Il n'y a qu'à voir, nous sommes aujourd'hui dirigés par un gouvernement paritaire, autant d'hommes que de femmes. Et pourtant, on constatera que, Christiane Taubira exceptée, aucune femme n'a eu accès à un ministère régalien ces 5 dernières années. Intérieur, défense, affaires étrangères, voire aussi économie si on le glisse là-dedans. On met les femmes à des postes qu'on juge être le prolongement de leur capacité naturelle, avec d'énormes guillemets, et c'est aussi, voire surtout, vrai dans les collectivités locales. La santé, par exemple, les personnes âgées, le handicap, l'enfance, la famille, la culture, le logement ou le foyer, l'environnement, hashtag mère nature. Bon, seul contre-exemple, il a fallu attendre Najat Vallaud-Belkacem pour avoir la première femme ministre de l'Éducation nationale. Mais quand on regarde les exécutifs locaux, l'éducation, c'est pour les femmes. On place les femmes dans des fonctions du care, et Marie ne me contredira pas, dans les fonctions du soin, de l'attention aux autres, aux plus faibles, dans l'éducation des plus petits, bref, dans tous les champs politiques qui concernent plus, finalement, la sphère privée que la sphère publique. L'économie, c'est un truc de bonhomme. L'agriculture, n'en parlant même pas, quand Edith Cresson a été nommée ministre de l'Agriculture par Mitterrand en 81, le président de la FNSEA a d'alors déclaré que nommer une femme ministre de l'Agriculture, c'était faire preuve de mépris à l'égard des agriculteurs. Ambiance. Mais je m'égare. Revenons à Marine. Puisqu'il ne faut surtout pas dire Le Pen, parce que Le Pen, c'est un homme, et Marine, c'est une femme. Marine Le Pen tient un discours, je le répète, viriliste, qui parle de redressement, d'érection, on va dire, de fierté, et j'en passe. Mais en même temps, elle n'hésite pas à rappeler à qui veut l'entendre qu'elle a 3 enfants, comme si c'était une affirmation qui, par le seul fait de sa profération, la rendait tout de suite plus humaine, ou tout de suite plus terre-à-terre, ou en contact avec la réalité de tout un chacun. Et on voit que Marine Le Pen cherche à se rendre plus humaine. Elle dit qu'elle aime les animaux, par exemple. C'était un de ses grands arguments. Qu'elle défend les plus faibles, elle dit que c'est une mère. Sa dernière affiche de campagne dit bien qu'elle n'est absolument pas qu'une rangée de dents prête à mordre. Et ce slogan aussi...
Elle a aussi un genou.
Comment ?
Elle a aussi un genou.
Mais oui, pour montrer qu'elle est aussi, voilà, qu'elle est une femme en chair et en os, et pas juste une rangée de dents jaunes prête à mordre. Et ce slogan aussi, remettre la France en ordre. Comme si la mère Le Pen promettait aux Français d'aller faire le ménage chez eux, de tout rafistoler comme une bonne maîtresse de maison. Parce que la France, c'est bien connu. La France, c'est une grande maison. Les Français sont une grande famille. Et comme dirait l'autre, on est chez nous.
Je suis extrêmement tolérante et hospitalière, vous l'êtes vous-même. Est-ce pour ça que vous accepteriez que 12 clandestins viennent s'installer dans votre appartement? Vous accepteriez pas? Bon, et que de surcroît, ils changent le papier peint. Et que même pour certains d'entre eux, ils volent votre portefeuille et qu'ils brutalisent votre femme.
Voilà, c'était Marine Le Pen qui veut remettre la France en ordre. Et donc, bah, tous ceux qui ont besoin d'une femme de ménage, eh bien, vous savez quoi faire dimanche.
Ouais, vigile pour surveiller votre papier peint.
Surtout ouais. Le papier peint, parce que bon, faut pas déconner. Bref, c'était tout ce que j'avais à vous dire, et nous passons tout de suite à l'humeur de Rémi. Bonjour Rémi.
Bonjour Mathias.
Le billet de Rémi, Dentouze Politique
sur Transistor. Dentouze Politique sur Transistor.
Alors Rémi, j'ai très envie de te poser cette question. Comment ça va ?
Je n'en peux plus. J'en ai marre, je suis à bout, excédé.
Je suis très en colère.
Voilà, merci Eva. Non, je sais que cette colère est attendue, que vous vous dites tous, et allez, c'est parti, il va encore s'énerver sur la politique gerbative des uns et le journalisme diarrhéique des autres. Et puis bon, là, il y a de quoi faire, quoi de mieux qu'une élection présidentielle pour stimuler l'onanisme radiophonique de ces commentaires de caniveau. Oui, d'accord. Mais je vous le demande, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? L'avalanche de choix foireux était déjà pas mal ces derniers temps. Hein. Petite sélection, le revenu universel ou une allocation forfaitaire revue à la baisse et conditionnée ? Un viol ou une matraque qui a dérapé ? Le peuple guyanais ou une colonie qui s'agite ? Le code du travail ou une vieille chaussette sale ? Mais alors là, pour un merdier, on en tient un beau. Hein. Attendez, on regarde d'un tout petit peu plus près. Hein. À ma gauche, à ma droite... Un ancien banquier d'affaires dont les yeux bleus ravageurs et le portefeuille tiennent lieu de programme politique. Artiste ratisseur qui récupère à tout va les rats fuyant par milliers les paquebots qui coulent à droite comme à gauche. Virtuose de ce même râteau qu'il mettra aux gens qui voteront pour lui. Un homme qui, invité sur le plateau de France 2, laisse dans les loges la grammaire qu'il avait apportée comme objet symbolique pour parler à la place d'attentat et de sécurité, comme si l'éducation n'était plus la solution à avancer. Encore plus à ma droite, deux rangées de dents, justement, entre lesquelles s'écoule en continu le flot puant d'une mixture informe où l'on trouve pêle-mêle, du racisme ordinaire, de la casse sociale et des restes de cigarettes. Une femme pour qui en finir avec l'alternance n'est qu'une formule qu'on agite pour être au pouvoir, et un jeune arriviste qui veut incarner l'alternance à lui tout seul en se faisant l'héritier de tout ce que la droite corrompue qui nourrit la haine et la pauvreté depuis 70 ans et la gauche fatiguée aux idéaux semblables à la libido finissante du président au scooter, de tout ce que ces deux gangrènes jumelles ont causé de mal et fait de conneries depuis des décennies. L'une veut ériger des murs de pacotille comme une taupe qui s'enterre mais qu'un jardinier malicieux viendra bien faire sauter un jour à grands coups d'explosifs. L'autre veut être la synthèse d'une rose fanée depuis longtemps et des épines qu'elle prétend encore combattre, même si tout le monde a bien vu que c'était la même plante. Épines, qui m'évoque soudain l'image délicieuse d'un petit Macron tout propre et d'une jolie Le Pen blondinette saignant par les fesses tout ce sang pris sur la peau des manifestants du printemps dernier. Oui, 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 les épines, saloperie de socialisme. Et là, j'irai pas vous dire que c'est un accident. Alors oui, je le répète, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ?
Qu'on a fait au bon Dieu, dis donc ?
Ah oui, non mais attendez, je me souviens. On a élu il y a 5 ans une baudruche débonnaire qui a commencé par construire de force un aéroport absurde, a ensuite inventé Manuel Valls, l'hémorroïde du paysage politique français, puis a pris la pluie, s'est séché avec le code du travail, l'a fait réécrire par Pierre Gattaz, nous a tapé sur la gueule, a inventé Bernard Cazeneuve pour remplacer Valls, et a mis des militaires partout en France, comme ça des malades se sont mis à leur tirer dessus dans les aéroports. Et puis bien sûr, il a su être l'étoile qui nous a révélé l'enfant prodige Emmanuel M., qui était alors, dans son petit landau christique, en train d'établir un accord avec le bœuf et l'âne pour leur autoriser 3% de rabais sur leur propre viande une fois qu'ils seraient morts en échange d'une servitude totale d'ici là. Ah, et puis, avant ça, on a eu Nico aussi. On l'a choisi lui aussi, vous savez, le schtroumpf nerveux avec son karcher qui n'a pas nettoyé grand-chose, mais il nous a joliment aspergé de sauce nationaliste qui veut plus partir depuis. Et puis le papy gâteux avant, qui aurait mieux fait de continuer à chanter la bossa nova. Pareil, choisi aussi. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'on ne me fasse pas croire que c'est en votant Macron qu'on stoppera le nationalisme, pas plus qu'on empêchera les gens de se faire baiser en votant Le Pen. Que ce n'est pas en faisant un stupide barrage qu'on arrêtera ceux qui veulent construire des murs. Je ne vois pas qui m'obligerait à choisir entre le chien dent qui menace mes plates-bandes et le fumier qui l'a fait pousser. Enfin, cela dit, j'en vois qui voudraient bien m'y obliger, un petit peu tout le monde à vrai dire. Le concert pitoyable des politiques qui n'ont plus d'idées quand il s'agit de gagner des ministères m'afflige un peu. Christine Angot, qui annonce dans Le Monde, si nous ne faisons pas ce minimum, nous sommes des salauds. Et ceux qui dorment depuis 5 ans, c'est pas des salauds peut-être. Le mec qui a chié dans ta chambre, en a étalé partout sur les murs, s'est torché avec la photo de tes enfants et a écrit « mort aux arabes » sur la fenêtre avec ses selles. N'est-il pas un peu plus un salaud que l'inconnu croisé dans la rue à qui tu demandes de tout nettoyer et qui te dit non merci ? Et toi-même qui attends depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans sans rien faire, au lieu de simplement dire « les toilettes c'est par là » ou simplement de faire quelque chose ? Croyez bien que je ne m'adresse pas là à Christine Angot avec tout le respect que je lui porte, mais bien à ce cœur ininterrompu de connards qui transfèrent éhontément la culpabilité que leur donne la vue de leur nullité politique béante sur ceux qui ont vu avant eux qu'il y avait de la politique entre les élections. Mais j'en ai marre qu'on tombe sur les abstentionnistes en permanence, comme s'ils étaient la cause du désastre. Et je repense à Raphaël Antoven, qui voyait en décembre dernier dans les abstentionnistes des feignants et des ingrats, des gagne-petits, des malhonnêtes qui brandissent la nullité des politiques opportunément pour justifier leur flemme et auraient l'impression de souiller leur pensée en la mêlant à la tourbe des autres, comme le rapportait Acrimède. Mais ta gueule ! Est-ce que j'ai pas le droit de croire que la caste sociale et la caste raciale sont autant de formes d'un même mal et que je ne veux aucun des deux ? Est-ce que j'ai pas le droit de regarder à long terme un petit peu et de ne pas choisir la cause du merdier pour faire barrage à sa conséquence ? Parce que, oui, le FN s'apprête à nous mettre un bon gros gourdin fasciste là où même la langue de Nicolas Dupont-Aignan ne pourrait aller, mais qui lui a appris à s'en servir ? Vous-même, abruti que vous êtes, le péno-macroniste de tous les bords, vous aussi qui avez fait du discours sécuritaire le premier sujet des discussions de cette élection à l'époque où il fallait faire barrage au stalinien Jean-Luc Mélenchon. Bref. Je vote tous les jours depuis des années. Dimanche, je prendrai un jour de pause. Avant que vous ne retourniez dormir, bien sûr, avec la satisfaction du travail bien fait et votre écharpe rouge autour du cou, en attendant que le lierre que vous méprisez ne vous étrangle, si vous voyez ce que je veux dire.
Christophe Barbier appréciera. Eh bien, c'était l'humeur de Rémi tiré l'abstentionniste. On a eu toute la palette de toutes les couleurs ce soir. Et c'est tout pour tous.
Non, personne n'est Front National ce soir. On se calme, Mathias.
Cela ne rentre pas dans mon champ cognitif, Marie. Ce sont des couleurs que je ne peux pas voir.
C'est joli, le brun. Vous verrez.
C'est bon. Pour le papier peint, c'est ça.
Exactement, oui. Un petit côté rétro, on en a besoin ces temps-ci.
Oui, oh, on nous en sert assez souvent.
Non, et mais le canuet 2017, j'y crois.
Le canuet 2017 ? 2022. Allez.
Allez.
On remet ça plus tard. Bon, c'est tout pour Tous Politiques pour ce soir. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.transistor.fr et nous sommes aussi sur Facebook. En attendant, tenez-vous informés, lisez. Évadez-vous, faites autre chose, allez voter si vous en sentez l'envie et si vos tripes vous le disent. Mais même si la politique n'est pas tout, nous sommes tous politiques.
Fais les valises, on rentre à Paris.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
Tonton veille sur vous.
Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Et j'en tire les conclusions.
Au revoir.